BFM Business. Midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
Yvon Stempezinski, bonjour, merci d'être avec nous dans l'Orache. Vous êtes, je le disais, président du GNTC, le Groupement National des Transports Combinés. Le transport combiné, c'est quoi? C'est en fait, on prend toute la chaîne du transport de marchandises. Alors, pour le moment, on ne vous entend pas. On va tenter de vous retrouver précisément du côté donc des... C'est bon, on vous a retrouvé a priori. Donc, je le disais, c'est l'ensemble du transport de marchandises d'un point A à un point B. On a toute la chaîne de logistique.
Oui, quand on parle du transport combiné rail-route, on parle de l'acheminement sur des distances en pré-acheminement par la route, ainsi que sur la partie livraison. L'essentiel... du mode de transport reposant sur le ferroviaire.
D'accord. Donc justement, c'est ce qu'on va évoquer ensemble. C'est chronique d'ailleurs, c'est chronique du côté des gouvernements de vouloir relancer le fret ferroviaire. Mais chronique justement, en quoi ce serait différent cette fois? Il y a un vrai retard français. On parle de moins de 10% à peu près des marchandises transportées par le fret ferroviaire. Alors que quoi, c'est le double en Allemagne. En quoi cette fois ce serait différent?
Alors effectivement, nous sommes à peu près à 10% de la part du trafic de marchandises aujourd'hui en France. Quand vous l'avez souligné, l'Allemagne était proche des 18%, l'Autriche proche des 32% et la Suisse effectue près de 35% des acheminements en ferroviaire. C'est donc une technique qui fonctionne, qui marche au quotidien et qui est en place depuis un nombre d'années conséquent, mais qui aujourd'hui coche toutes les cases de ce qui peut être, d'une part, une alliance de la partie économique et de la partie écologique.
Oui, c'est ça. En fait, il y a le prisme écologique et à la fois le prisme économique. Et on en a vu la réalité, car c'est une activité et un mode de transport qui s'est poursuivi précisément durant le confinement, entre autres.
Tout à fait. C'est un mode de transport qui a montré sa capacité de résilience pendant la période de la crise sanitaire. Au plus fort pendant le confinement, en continuant à acheminer à travers la centaine de trains quotidiens et les 35 terminaux sur lesquels ils prennent leur départ et effectuent leur arrivée, le transport combiné rail-route a continué à acheminer les denrées essentielles pour le fonctionnement de la nation pendant cette période et a montré sa capacité à pouvoir répondre à toutes les demandes des entreprises en amont et en aval.
Alors l'ambition du gouvernement, c'est le triplement de l'activité combinée d'ici 2030. Jean Castex a esquissé en cette semaine le plan de relance d'une filière fragilisée tout de même qui a continué de fonctionner, on le disait, pendant la crise. Ça passera notamment par le développement des autoroutes ferroviaires. Est-ce qu'on n'est pas simplement sur l'effet d'annonce? On va rentrer dans le détail car ce ne sont pas de nouveaux projets en fait, notamment quand on parle de relancer le train des primeurs Perpignan-Rungis.
Oui, la relance au global repose en partie sur les autoroutes ferroviaires. Elle repose au global également sur le report de la route vers le rail, car il n'y aura pas de génération spontanée. Le triplement de l'activité du ferroviaire doit se faire via la confiance des transporteurs routiers qui remettront demain leur chargement sur les axes ferroviaires qui peuvent les intéresser. Donc les éléments sont forts parce que, encore une fois, écologiques, mais très mêlés d'économie. Il faut savoir qu'un train, c'est 6 fois moins d'énergie consommée pour un transport identique sur la route, mais c'est également un aspect sociétal fort puisque... sur un train, nous mettons en moyenne 50 camions et nous valorisons la profession de transporteur routier, de conducteur routier sur les opérations les plus importantes qui sont la livraison et bien sûr le chargement. Donc les axes aujourd'hui qui ont été soulignés par le Premier ministre et les autoroutes ferroviaires répondent entre autres à des besoins déjà déterminés comme la partie Perpignan-Rungis, mais également sur les grands corridors sur lesquels s'effectue l'essentiel des acheminements routiers aujourd'hui et avec aussi une notion pertinente sur le désengorgement des axes parce que demain, les objectifs que nous a donné et que s'est donné le Premier ministre dans les actions vers lesquelles il va nous soutenir, ce triplement du transport combiné, on parle malgré tout d'économiser à peu près 1 milliard de kilomètres camions en externalités négatives également sur l'entretien des routes, sur les investissements routiers, sur l'accidentologie. Il y a bien sûr un fort effet et près d'1 million de tonnes de CO2 économisées à l'année. Donc l'intérêt est commun entre la partie routière, entre la partie ferroviaire, que cette croissance s'effectue. Parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une maturité de marché qui l'accepte et qui le réclame.
Oui, c'est ça. C'est le chaînon qui manquait véritablement, parce que finalement, la problématique n'a pas changé ces dernières années. Mais pour revenir aux autoroutes ferroviaires, on relance le train des primeurs Perpignan-Rungis. Mais pourquoi il s'est arrêté, notamment, il y a eu peut-être une absence de succès dernièrement?
Alors, le succès de la part ferroviaire est très lié à la qualité qui peut être générée au quotidien. Et en cela, nous travaillons aujourd'hui avec les infrastructures de SNCF Réseau qui délivrent les droits de passage en termes horaires et en termes financiers de manière régulière et quotidienne afin de conforter cette qualité. Si nous voulons donner confiance aux transporteurs routiers qui font aujourd'hui, par exemple, Perpignan-Rungis pour l'acheminement des primeurs, il faut leur donner la garantie que notre mode de transport, dans sa régularité, dans sa qualité, ça soit du quotidien. Sinon, effectivement, ils repartiront sur la route. Donc, le travail est de fond sur un travail structurant et nous sommes confiants pour qu'à partir de 2021, au vu du support que nous avons aujourd'hui au niveau gouvernemental, non seulement financier, mais également en appui, nous puissions travailler dans des objectifs qualitatifs qui donnent confiance à la partie route pour pouvoir remettre le fret sur les rails.
On va y revenir en détail précisément avec notamment le besoin d'investissement. On retiendra également de ces annonces et de ce plan esquissé la gratuité des droits de péage. Alors cette gratuité, elle va être valable de juillet à décembre 2020. Ensuite, on parle d'une diminution parce que c'est quel poids dans les coûts pour les opérateurs? De 10 à 15%, ça représente des dizaines de millions d'euros. C'est un vrai geste.
Alors, c'est un vrai geste qui est très bien ressenti par la profession et on remercie, et j'ai eu l'occasion de remercier le Premier ministre en direct lors de sa visite à Valenton lundi dernier. Sur la partie de la gratuité des péages que nous avons sur le deuxième semestre 2020, c'est une compensation par rapport à ce que la profession a perdu pendant la période du confinement, puisque si elle a continué à assurer l'acheminement, c'est avec une réduction de son chiffre d'affaires d'à peu près 50%, et les opérateurs ferroviaires ont malgré tout été impactés de lourdes pertes. Sur la partie 2021, nous considérons cela comme une aide à l'investissement. C'est aussi un message de confiance sur la filière que nous devrons traduire en productivité de manière à pouvoir continuer les investissements dans nos différentes entreprises et commencer l'objectif qui est donc de tripler l'activité à horizon 2030. Donc, ceci est étroitement mêlé et nous considérons que c'est un premier geste qui devrait être suivi d'autres, bien sûr. Nous mettrons autour de la table très certainement pour voir avec les gestionnaires de structure comment la partie qualité et la partie économique peuvent être ciblées. Mais c'est un très très bon incitateur de départ par rapport aux objectifs qui ont été fixés.
Première étape d'un plan de relance plus vaste, on l'imagine. Quelles doivent être les prochaines étapes?
Alors, les prochaines étapes, elles sont principalement sur les structures. Aujourd'hui, les 100 trains que nous avons par jour et qui acheminent à peu près l'équivalent de 2600 camions au quotidien reposent sur un maillage de 35 terminaux ferroviaires qui doivent être restructurés parce que, ayant une certaine obsolescence pour quelques-uns d'entre eux. Et ce maillage doit être renforcé d'une quinzaine de terminaux de façon à pouvoir accueillir à horizon 10 ans cet objectif que nous sommes fixés du triplement des volumes.
Oui, je vous en prie, terminez votre phrase.
Oui, ce sont des dossiers qui doivent se gérer en plus avec les territoires, avec les régions qui ont des impacts économiques, qui ont des impacts sur l'emploi. Ces structures qui sont à mettre en place peuvent demain, avec l'accompagnement des volumes qui y sera lié, nous amener à relocaliser et à créer à peu près 5000 emplois autour de ce projet. Donc forcément, ce sont des éléments à gérer avec les régions et les territoires.
Et il est donc évident qu'en bout de course, il faut investir lourdement, améliorer les structures, vous le disiez, améliorer les infrastructures. C'est un investissement lourd qui pourra passer entre autres par SNCF Réseau. Mais est-ce que SNCF Réseau pourra le porter? Autrement dit, dit, est-ce que l'État sera à la hauteur? Est-ce qu'il y aura assez, eh bien, de fonds alloués justement pour qu'il y ait un vrai changement de ce côté-ci? Parce que ce sont ces investissements qui feront évoluer cette tendance.
Vous avez tout à fait raison. Alors aujourd'hui, j'ai confiance, moi, dans ce que nous a indiqué le Premier ministre Jean Castex quand il a mentionné à plusieurs reprises que le transport combiné rail-route était l'avenir. Je suis confiant également dans le sens que les fonds puissent être demain trouvés, débloqués au fil du temps pour suivre nos investissements, sachant que ce ne sera pas SNCF Réseau, a priori, dans le cadre du financement des sillons sur la partie du deuxième semestre 2020 et 2021, qui lâchera les cordons de la bourse. C'est le gouvernement, c'est l'État, ce n'est même pas SNCF qui assumera directement cet aspect économique. Donc j'ai confiance aujourd'hui également dans un ministre de tutelle, le ministre du Transport, avec M. Djebbari, qui est tout à fait à notre écoute et qui a été l'interlocuteur, il y a quelques semaines, d'un plan que nous avons remis, toute la filière ferroviaire étant réunie auprès d'un projet qui s'appelle 4F, Fret Ferroviaire Français pour le Futur, qui détermine toutes les actions nécessaires, tant structurelles qu'économiques, qui doivent être mises en œuvre. Ce plan a été remis au ministre Djebbari, donc il y a 3 semaines environ, qui en prend connaissance en ce moment et dont les services commencent à travailler avec nous, la DGITM entre autres, prend chaque sujet pour les travailler de manière complète avec les acteurs que nous sommes pour en tirer les objectifs et bien sûr chiffrer à terme ces notions-là en termes budgétaires.
Et merci Vincent Pezinski. Je rappelle que vous êtes président du GNTC, le Groupement National des Transports Combinés. Merci d'avoir été dans l'Orage. La suite de l'Orage à suivre. Maxime Lemerle, directeur des recherches sectorielles de l'Air Hermès.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
Avec nous dans l'heure H, Maxime Lemerle, directeur des recherches sectorielles de l'Air Hermès. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec vous, on va bien sûr parler des entreprises face à la crise, à la lecture de 3 indicateurs financiers que vous avez analysés. Tous se dégradent, mais avant, j'aimerais vous entendre. On ferait un pas de côté sur les perspectives. On aura vendredi l'ampleur du recul de l'activité au deuxième trimestre pour la France, reprise certes dans la foulée, mais déjà le moral des ménages baisse en juillet, considérant que c'est plus opportun, encore une fois, d'épargner. Une même incertitude qui se traduira peut-être par la faiblesse des investissements côté entreprise. Est-ce que vous êtes dans cette lignée?
Alors oui, tout à fait. On est toujours dans ce climat d'incertitude et on surveille comme l'huile, comme le petit lait, tous les indicateurs qui sortent au jour le jour pour nous donner une idée de l'ampleur du timing du rebond de l'activité. Effectivement, les chiffres qui vont sortir cette semaine sont très attendus pour envisager ou revoir éventuellement notre prévision pour la deuxième partie de l'année 2020, qui pour l'instant n'est pas forcément de la plus favorable.
Le plus dur est devant nous en matière d'emploi et de faillite, l'a encore répété Bruno Le Maire. C'est ça, on attend le choc de la rentrée?
On attend le choc de la rentrée, à la rentrée ou un petit peu après, puisque la France fait partie des pays qui ont mis en place un certain nombre de mesures pour permettre justement aux entreprises de passer le cap, le point chaud de la crise qui était en mars, en avril et en mai, et de repousser un certain nombre d'échéances fatales en termes de possible faillite après la période d'urgence sanitaire, et très précisément d'un point de vue technique, c'était 3 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce qui nous met en fait plutôt aux alentours de début octobre pour vraiment commencer à voir ou risquer de voir une envolée des défaillances d'entreprises. En tout cas, nous, chez l'Hermès, c'est ce que nous attendons, à savoir une forte envolée des défaillances d'entreprises à partir du dernier trimestre de l'année, après un premier semestre qui a été totalement préservé de ce point de vue-là, encore une fois grâce à l'ensemble des mesures prises par les autorités. Les défaillances d'entreprises sont en recul très significatif sur le premier semestre. En revanche, ce que nous attendons, c'est que le dernier trimestre de cette année fasse état d'une envolée importante des défaillances d'entreprises qui se confirmerait et se conforterait sur le premier semestre de l'année prochaine, 2021. Tout ça pour finir, en fait, 2021 avec une hausse des défaillances d'entreprises en France que nous tablons à plus 25%, après donc plus 4% cette année, et plus 20, plus 21% encore l'année prochaine, ce qui fait qu'on terminerait l'année 2021 avec un rythme annuel, un volume annuel de défaillances d'entreprises en France de l'ordre de 64 000 défaillances d'entreprises, donc un point haut depuis de bien nombreuses années.
Un niveau colossal, bien évidemment. Ça m'amène à la note que vous venez de publier, hein, des entreprises fragilisées, et c'est logique, par la crise sanitaire, la trésorerie mise sous pression. Et vous avez pour cela scruté trois indicateurs qui se sont dégradés avec la crise, à l'échelle mondiale, bien évidemment, dont les délais de paiement. Qu'en est-il, par ailleurs, de la France sur ce point, sur cet indicateur ?
Alors, au niveau des délais de paiement, la France, pour nous, va afficher une même évolution d'une augmentation des délais de paiement qui sera de l'ordre de 2 jours de chiffre d'affaires, en tout cas avec la méthodologie que nous avons employée, qui est celle de regarder les entreprises les plus grandes et notamment celles qui sont cotées en bourse et en regardant l'ensemble des bilans. Alors, les bilans, c'est une photographie de la situation financière des entreprises à un instant donné, en fait, au moment de la clôture des bilans, mais notre travail a été, ce que nous avons fait, c'est à partir des données 2019 qui sont maintenant connues, enfin depuis un certain temps sur l'ensemble des entreprises, c'était de se projeter sur cette année 2020 et avec un peu d'économétrie d'utilisation des données de nos experts risques de l'ère Hermès, c'était de mettre tout ça en équation pour avoir des prévisions 2020 et aussi 2021 pour la France, donc, mais aussi pour l'ensemble du monde. C'est ce qui nous a amené à faire ce constat que sur l'ensemble de l'année 2020, effectivement, tous ces grands indicateurs qui tournent autour du BFR, du besoin en fonds de roulement, donc à la fois les délais de paiement clients, les délais de paiement fournisseurs et les stocks, on était sans surprise, sur une dégradation de cet ensemble d'indicateurs qui sont clés quand on surveille la situation financière des entreprises au quotidien, comme c'est le cas chez l'Hermès.
Oui, sans surprise, bien évidemment. Et puis, en fait, on a ces indicateurs, une espèce de réaction en chaîne. Quand l'un est touché, découle la fragilité et la mise sous pression des autres. Des conséquences, et notamment pour les délais de paiement, mais pas seulement, plus dramatiques, donc, à la vue de ces indicateurs, que la crise de 2008.
Tout à fait. Nous, ce que nous avons déjà commencé à voir et ce que nous attendons, c'est qu'au total, au niveau des délais de paiement, ils devraient augmenter 2 fois plus que ce que nous avons observé lors de la crise financière de 2008. C'est le cas en France, effectivement, mais c'est aussi le cas au niveau mondial, comme j'ai dit précédemment.
Est-ce qu'on sait, après la crise de 2008, on est revenu à un rythme pour les délais de paiement, sous combien de temps ? Parce qu'on imagine que donc là, l'effet de rattrapage sera beaucoup plus long également, avec une crise qui a fragilisé davantage les entreprises.
Alors, il a fallu 2 à 3 ans pour faire des niveaux d'avant-crise de 2008 à l'époque. Très honnêtement, les incertitudes qu'il y a aujourd'hui dans le contexte macroéconomique pourraient laisser penser qu'il faudra au moins cette période, ce laps de temps pour revenir au niveau d'avant la crise que l'on subit aujourd'hui, cela reste à voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que derrière ces délais de paiement aussi, il faut voir deux aspects. Il y a l'aspect choc d'activité qui a obligé naturellement, mécaniquement, des entreprises à surseoir aux délais accordés à leurs clients pour espérer quand même recevoir les fonds de leur part. Mais il y a aussi un deuxième effet, je dirais, qui est celui de la reprise et le fait que en temps de reprise compliquée, la compétition entre les entreprises va être encore plus intense qu'avant la crise, puisqu'il va falloir conserver des parts de marché. Je ne parle même plus de gagner des parts de marché, mais le fait de vouloir conserver des parts de marché va, selon nous en tout cas, inciter, voire obliger un certain nombre d'entreprises à revenir sur les conditions de délai de paiement accordés à leurs clients pour tout simplement emporter les nouveaux contrats qui, par chance, pourraient se présenter à eux. Donc, c'est une raison, je veux dire, totalement opposée à la première qui est celle du choc, mais les deux vont s'additionner et c'est ce qui, selon nous, amènera à une augmentation très significative des délais de paiement. Donc, encore une fois, en France et dans le monde, et cette année et l'année prochaine.
Une réaction en chaîne, je le disais, dégradation aussi quant aux besoins en fonds de roulement, bien évidemment, ce qui fait vivre l'entreprise. Et quand on parle de trésorerie mise sous pression, on retrouve justement ces difficultés. Est-ce que là aussi, la France est très exposée, plus exposée ? Est-ce que les entreprises sont plus fragiles ?
Alors, les entreprises françaises ne sont pas immunes. Elles sont en tout cas, pour autant, selon nous, un chouïa moins exposé qu'en moyenne au niveau mondial. Nous attendons, nous, qu'au niveau mondial, le besoin de fonds de roulement des entreprises augmentera de 5 jours en 2020 pour s'établir à 74 jours de chiffre d'affaires donc en 2020. Pour la France, nous, on attend à ce que cette hausse de BFR ne soit que, mais je dis bien entre guillemets, que de 3 jours pour s'établir à 69 jours de chiffre d'affaires. C'est quand même un niveau très important. Quand on met en regard de ces augmentations en nombre de jours d'affaires, le montant des enjeux financiers, on voit tout de suite l'ampleur et l'importance de ce phénomène. Si je reprends, on va dire cet indicateur au niveau mondial, cette hausse de 5 jours de chiffre de BFR, pardon, à 74 jours au niveau mondial, ça présente un besoin additionnel de financement du cycle d'exploitation de 140 milliards de dollars en 2020 par rapport à 2019. Et de plus, ça veut dire qu'au total, on dépasserait un niveau mondial de BFR à financer, donc de 8 000 milliards de dollars. Donc on est quand même sur des montants qui sont, je pense, pour tout le monde, très significatifs.
Oui, une incertitude supplémentaire pour justement s'interroger sur les investissements, sur les embauches éventuelles. Est-ce que c'est une dégradation, mais j'imagine que non, qui a touché tous les secteurs de manière égale? Non, en fait, ce sont selon les secteurs qui ont été plus ou moins exposés. Ça veut dire que même en France, d'ailleurs, est-ce que le transport a été plus exposé par rapport à la pharma? Est-ce que là aussi, on a retrouvé finalement les expositions à la crise avec cette dégradation aussi?
Alors effectivement, on voit en premier les secteurs qui ont le plus été touchés par la crise et qui ont été donc les plus exposés. Mais il ne faut pas oublier aussi les entreprises ou les secteurs qui ont été peut-être un peu moins exposés aux effets directs de la crise, mais qui peuvent être exposés aux effets indirects, premièrement, ou deuxièmement, ceux qui, avant même le début de la crise, et malgré leur faible exposition au type de crise que l'on vit, étaient sur des niveaux de fragilité importants, qui fait que même si le choc était d'une ampleur ou est d'une ampleur un peu moindre que, par exemple, effectivement, pour le secteur des transports, de l'automobile ou de la distribution non alimentaire, pour autant, ces autres secteurs dans lesquels on a, par exemple, tout ce qui est autour de la métallurgie, de la construction, et qui étaient donc fragilisés avant, vont avoir des niveaux, on va dire, de fragilité accrue sur l'ensemble de cette année 2020.
Merci Maxime Lemerle. Je rappelle que vous êtes directeur des recherches sectorielles de l'ère Hermès. Merci d'avoir été dans le RH. On se retrouve dans un instant.